chambre, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas
de inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, salut, c'est les Grégor. Chaque semaine, sur les Côtes du Garrigue de Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, eh bien, on va vous passer la suite de Jouy les Tours. Alors, je fais un petit rappel. Le 20 décembre, donc 2014, Bertrand Bilal a été abattu par la police à Jouy les Tours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu deux versions. La première, celle de la police, reprise par le procureur, où il s'agissait, d'après eux, eh bien, d'un attentat terroriste avec Allah Akbar, évidemment, etc. Voilà. Et ensuite, la version de la famille, des amis et aussi des témoins. Mediapart, d'ailleurs, en a parlé, a fait tout un dossier là-dessus, qui disent que finalement, ce n'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Ça serait finalement, eh bien, une bavure, entre guillemets, policière.
L'État s'est servi d'une page Facebook de Bertrand, oui, qui avait affiché quelques jours avant le drapeau islamique, avec le commentaire que tu viens de donner. Et pourtant, ça les a pas du tout empêchés de... apparemment, Bertrand venait juste de se convertir.
Ça faisait quand même... C'était
ça faisait depuis un petit moment.
C'est pas si récent. Il s'était converti dans son adolescence. Les choses s'étaient confirmées à sa majorité, donc à 18 ans. Il avait 20 ans. Donc voilà, simplement, maintenant cette conversion n'était pas si récente, c'est quelque chose qui s'était affirmé au contraire au fil du temps et qui l'avait amené petit à petit. Par exemple, il pratiquait le rap, il avait arrêté de pratiquer le rap, il s'était concentré sur une voie, ça c'est vraiment ce que tous ses proches disent de lui, c'est qu'il était concentré sur une voie spirituelle, mais qui était vraiment la démarche d'amélioration de soi-même, d'atteindre à toujours plus de sagesse, etc. Donc il était vraiment pas dans la démarche violente. C'était plutôt quelqu'un qui se tenait à l'écart des relations même conflictuelles. Hein, c'est quelqu'un qui se tenait à l'écart des relations conflictuelles, qui du coup n'était pas du tout fermé aux autres, était très ouvert socialement, mais pas forcément dans une démarche de groupe ou de bande. Il aimait plutôt voir les gens tête à tête ou en petits groupes. Et à côté de ça, il avait des rêves, des projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'après, c'est un peu rentrer dans une forme d'intimité. Mmh. C'était quelqu'un qui était dans la vie et pas du tout dans la démarche suicidaire nihiliste qui rime avec ce dont on l'accuse, en fait, hein, qui va toujours de pair avec ce dont on l'accuse.
Et pourtant, parce que vraiment, là, il faut souligner le travail des médias, hein, puisque théoriquement, quand même, les journalistes sont censés faire un minimum d'enquête avant de proposer un sujet, surtout de cet ordre-là. Et visiblement, là, il n'y a eu absolument aucune enquête. Ils se sont, comme d'habitude, ils ont été chercher leurs informations auprès de la police et auprès des institutions, et sans les vérifier aucunement, et ont déversé un flot d'ignominie sur Bertrand Bilal et les événements, leur donner une coloration qui, pour le moins, n'était absolument pas vérifiée. Et pourtant, ça n'a pas empêché quand même François Hollande de faire des déclarations, Manuel Valls, tu l'as dit, Bernard Cazeneuve, enfin, on voit là quand même des ministres, un président de la République, et entre autres, pour bien sûr mettre en avant ce péril islamiste, et entre autres, donc je crois que c'est Manuel Valls qui disait, ce sont des phénomènes de très grande radicalisation, très rapide, c'est peut-être le cas pour ce garçon qui a agi, comme vous le savez, à jouer les tours, donc très très rapidement, dans les heures qui suivent, tout de suite, on qualifie cet acte d'islamisme radical.
C'est ça, et on ne voit pas très bien comment il peut être possible de revenir sur ce type d'accusation quand elle est martelée avec autant de force par effectivement les plus hautes autorités de l'État, comme on dit, et en même temps la presse qui s'en fait le relais, les radios en boucle, en boucle, en boucle. Enfin là, on est vraiment dans le matraquage le plus absolu, à tel point que c'est à se demander s'ils ne vont pas comme ça générer des vocations, et c'est un petit peu ensuite ce qui va être dès le lendemain Dijon, Nantes, je crois, enfin voilà, il va y avoir ces deux affaires où on va nous ressortir le coup du forcené qui crée à la Wakba, mais quand même avec une différence cette fois. On va nous dire que là, non, c'était pas la même chose, c'était vraiment des simples d'esprit, des personnes dérangées, et pas du tout un cas de terrorisme avéré. Donc c'est Bertrand Bilal qui reste, lui, porteur de ce stigmate, et qu'il reste encore pour aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, malgré les versions contradictoires qui ont circulé. Enfin, il n'y a pas eu de témoignage officiellement déposé auprès de la justice, et le procureur de la République a tenu à faire une sorte de conférence de presse visant à couper court aux rumeurs, là je mets les guillemets, couper court aux rumeurs, puisque pour lui, témoignage contradictoire égale rumeur, tant que ces versions-là n'ont pas été produites officiellement devant les services accrédités.
Quoi ça sert vraiment d'avoir la foi éperdument? J'en perds mes mots, serre les dents quand je pense comme c'est percutant. On perd du temps, espère du vent, on se positionne à tort alors que la vérité crève l'écran. Mais dictong, à la question d'où vient-on, je réponds Big Bang, évolution. Tous des frères de King Kong, quiconque prétendrait le contraire serait fou. Tous des mammifères, mon frère, doté de raison, c'est tout, ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. Dehors, t'inquiète, c'est calculé. Pas quoi prier l'immaculé pourrait apporter à part nous faire reculer, nous basculer dans je ne sais quoi, se mettre à fabuler, ne plus miser sur soi mais croire en Dieu et l'aduler. Les derniers seront les premiers, c'est comme ça qu'ils nous font danser. Quand vous serez morts, je vous jure, vous serez récompensés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on en sait? Rien qui peut compenser le fait qu'il faut toujours croire sans voir et s'en contenter. Donc, en condensé, restons sensés. Pas question d'encenser l'insensé. Non, non. En condensé, restons sensés. Il n'est pas question d'encenser l'insensé. Ni Dieu ni maître. Mais c'est par milliers que les religions l'ont tué. Des gens qui avaient confiance en leurs croyances sans s'en méfier. Prêtre, imam, rabbin, gourou, où est la différence? C'est la même influence. Je prône la résistance car mes distances et me dispensent tout endoctrinant qui voudrait diriger mon existence. Ni Dieu ni maître.
Mounia, on continue donc avec ce qui s'est passé autour de la mort de Bertrand Bilal, donc à jouer les tours. Et donc on avait envie de comprendre un petit peu mieux dans une situation comme celle-là. D'habitude, la police a certains éléments qu'elle peut quand même visionner, entre autres les caméras de vidéosurveillance. Il n'y en a pas à jouer les tours ou quoi?
Ah ben il paraît que non. Il paraît que non. Pas de vidéosurveillance devant le commissariat. En tout cas, c'est ce qui a été dit tout de suite par le procureur. En prétendant que s'il y en avait, bien entendu, ça aurait été utilisé. Il a dit très précisément qu'il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance ni à l'intérieur, ni devant le commissariat, et rien de vraiment exploitable. Il n'a jamais mentionné la présence d'autres caméras de surveillance aux alentours. Alors que, en fait, les camarades de la rotative, en se rendant sur place, ont pu photographier qu'il y a bien un dispositif de caméra au moins sur les façades latérales, hein, il y a deux caméras fixées sur les façades latérales du commissariat qui auraient quand même pu permettre de voir par où Bertrand Zouabonneo s'était rendu sur ce commissariat. Ensuite, il y a pas mal de caméras de la ville, du tram. Tout ça a été très très bien cartographié, donc on peut le consulter sur le site de rue 89, l'article ayant été fait en collaboration par les camarades de la rotative et rue 89.
Alors on se rend compte souvent que quand les policiers sont mis en cause dans une affaire, les vidéos disparaissent.
Oui, les vidéos disparaissent. En tout cas, là, c'est encore mieux. On nous dit qu'il n'y en a pas. Enfin, de toute façon, on ne sait pas jusqu'à... On n'a aucune information sur le contenu réel du dossier. Quand je dis « on », je parle même de la famille, puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction nommé à ce jour. La famille n'est pas encore constituée partie civile. Le procureur ne nomme pas de juge d'instruction. Donc, pour l'instant, l'accès au dossier n'est pas possible. Et aucune certitude, évidemment, d'avoir une enquête à charge et à décharge. Là, pour l'instant, on est dans un mode d'enquête qui vise à Paris... Il y a une procédure à Paris, donc antiterrorisme, qui vise à essayer de montrer qu'il y avait bien une activité terroriste derrière. Et là, très vraisemblablement, tout ça va s'écrouler parce qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ça a été plaqué très hâtivement. Et à Tours, on est dans une enquête préliminaire, mais où la police enquête sur elle-même et ne cherche absolument pas à prouver autre chose que ses propres dires. Enfin, pour autant qu'on puisse en juger, hein. Mmh. Et en l'absence justement de la nomination d'un juge d'instruction dans cette configuration-là. Donc les vidéos, comment est-ce que ces vidéos pourraient être produites? S'il y avait un juge d'instruction, la défense, l'avocat pourrait demander à l'instruction que ces preuves soient produites. En l'occurrence, pour l'instant, rien n'apparaît. Or, évidemment, on est porté à croire que si aucune image ne paraît, c'est qu'il n'y a aucune image disponible de nature à renforcer, à accréditer, à prouver la thèse officielle. Il n'est pas évident que si ces images-là existaient, on en aurait déjà connaissance. Enfin, voilà. Et en l'occurrence, dans ce type d'affaires, en revanche, quand les vidéos ne vont pas dans le sens qui convient aux forces de l'ordre, effectivement, elles disparaissent partiellement ou totalement. Donc le souci, c'est que là, le temps passe et qu'avec le temps qui passe, les preuves s'effacent, les mémoires, en quelque sorte même, hein, s'effacent. Ces fameux témoignages qu'on voudrait pouvoir... que des témoins voudraient pouvoir déposer, mais auprès de qui? Pour l'instant, l'appel de témoins officiel, celui du procureur de la République, hein, de Tours, renvoie vers la direction interrégionale de la police judiciaire à Orléans. Par ailleurs, beaucoup de pressions ont été exercées. La simple accusation de terrorisme est déjà une forme de pression. Le quartier a été envahi, la ville, Joué c'est une petite ville, le quartier de la Rabière où a grandi Bertrand Dilel, qui était réfugié avec sa famille réfugiée politique du Burundi, voilà, il a poussé à Joué les Tours, c'est la ZUP de Joué les Tours, c'est un quartier qui s'est retrouvé envahi par... Tout le monde a vu, en fait, les forces de police en civil qui étaient présentes. Tout le monde s'est senti épié. Il y a une très, très forte pression qui a été exercée sur la population. Le simple fait aussi que le procureur ait jugé bon de faire une conférence de presse pour couper court aux rumeurs, tout en disant il y a un appel à témoins. Mais quand on veut couper court aux rumeurs, on intimide les gens, on intimide même la presse. Puisque le discours du procureur, c'était aussi de s'indigner que la presse relaie les versions contradictoires avec celles des policiers, comme si c'était pas un petit peu son métier aussi de s'intéresser et de venir sur le terrain et d'essayer d'enquêter effectivement pour voir ce qui se passe et essayer un petit peu de rapprocher tout ça.
Essayer de comprendre, effectivement, voilà. de faire une instruction, ça s'appelle normalement, d'entendre toutes les parties pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bah donc du coup, il n'y a pas d'instruction, donc les témoins ne peuvent pas témoigner.
Mais voilà, ils vont aller où les témoins ? Ils vont aller voir la police, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir la police en essayant de donner une version contradictoire avec celle de la police. En théorie, ça devrait être possible, en pratique, bon, on sait quand même ce qu'il en est. Et c'est pas pour rien que le juge d'instruction existe quand même. C'est pas être particulièrement radicalement militant que de dire cela, quoi.
Non, vraiment pas.
C'est déjà pas l'idéal, mais c'est quand même au moins, comment dire, c'est le magistrat qui est censé effectivement instruire à charge et à décharge. Voilà. Et là, on n'a même pas, ce magistrat-là nommé dans une affaire aussi grave, parce qu'il y a quand même eu mort d'homme. Mmh. Ok, il y a eu des policiers blessés, ok. Il y a quand même mort d'homme d'un jeune homme de 20 ans. Et même dans le cas d'une légitime défense, en principe, il doit y avoir une enquête du type IGPN qui essaie de regarder si l'usage de la force a été proportionné au risque, en fait, à la menace qui était en face. Donc, même ça, on n'en entend même pas parler de ça. Là, on est sur une affaire où quelqu'un aurait mérité sa mort parce que c'était un agresseur terroriste. Et par là-dessus, on imagine bien qu'avec, malheureusement, la tuerie à Charlie Hebdo, les événements qui ont suivi, l'hypercacheur, etc., ça devient très, 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 très difficile de faire entendre une voix qui viendrait défendre un jeune homme, lui, accusé injustement de terrorisme. Voilà, ça complique énormément les choses. On pourrait dire que le 7 janvier, le jour de la tuerie à Charlie Hebdo, une conférence de presse est organisée à Paris, avec la famille, l'avocat, organisée par le CRAN, mais avec d'autres associations qui viennent en soutien... dans cette affaire, hein, Stop le contrôle aux faciès, Urgence de police assassine, la brigade anti-négrophobie, le CCIF. Et sur cette conférence de presse, devaient être apportés des éléments contredisant la version du procureur de la République qui, pour couper court aux rumeurs, avait également, nié que sur une certaine photographie qui a été publiée notamment par Mediapart, on peut voir Bertrand Bilal étendu avec des policiers autour de lui sur les marches du commissariat et une grande coulée de sang sur les escaliers. Le procureur, lui, nous dit « Tout s'est passé à l'intérieur du SAS. Cette photo semble montrer qu'au moins une partie des faits se serait déroulée à l'extérieur. » Il nous dit « Non, sur la photo, vous vous trompez, vous la lisez très mal, cette photo. Vous voyez ce que vous voyez, ça n'est pas Bertrand Bilal, c'est un policier. C'est un policier qui, lui, s'est traîné à l'extérieur et qui est secouru par ses collègues et par un civil torse-nu qui lui fait un point de compression. » Voilà. Sur cette conférence de presse, via Le Monde, le procureur dit que le policier sur la photo de Mediapart, c'est bien un policier, on lui rétorque, mais on voit une personne noire, et il dit, bah, c'est un policier noir.
Sauf que...
Ça fait sensation, puisqu'il n'y a pas de policier noir
voilà.
À Joli Tour. Mm-hmm. Il n'y a pas, non pas seulement dans cette équipe, mais il n'y a pas de policier noir à Joli Tour. Donc, tout ça fait grand bruit, aurait dû faire grand bruit. Ça a été tweeté par plusieurs journalistes sur place, mais malheureusement, voilà, qu'est-ce qui s'ensuit dans la foulée ? La tuerie à Charlie Hebdo. La presse abandonne complètement ce dossier, on peut le comprendre, on passe à autre chose, enfin voilà, c'est le tsunami en fait, Charlie Hebdo, puis Hyper Cacher, c'est très bien dans quelle séquence on est passé maintenant, il n'est plus question que de lutte anti-terrorisme, voilà, ça fait son grand discours. Il y a quelques jours, il évoquait encore jouer les tours au milieu, dans le paquet. Hein. Les rares journalistes qui ont essayé d'en reparler, la Rotative a sorti donc hier, nos camarades de la Rotative, un média collaboratif d'information locale, Angèle, donc ils ont sorti un papier hier pour exposer ces faits, puisque ça ne sortait plus. Puisque tout a été emporté par le tsunami Charlie Hebdo, ils ont sorti ces faits pour bien pointer les accros qui persistent, les incohérences persistantes dans la version du procureur qui souhaitait couper court aux rumeurs et museler la presse. Donc il insiste sur cette photo en disant, bah, sur cette photo quand même, on voit effectivement un homme noir. Il n'y a pas de policier noir, donc à jouer les tours. Donc comment se fait-il que le procureur de la République nous dise, c'est un policier ? Et David de Perrotin de rue 89 reprend ce papier en ajoutant des éléments intéressants. Le parquet de Paris ne veut plus communiquer sur la question. Mmh. Hein, le parquet ni à Tours ni à Paris. Et concernant la photo, on nous dit que en fait, il s'agirait non pas d'un homme noir, mais d'une partie du corps du policier auquel on aurait apporté des soins. Donc ils nous disent peut-être une partie de cuisse ou de fesse. Voilà ce qu'ils osent dire. Il faut voir la photo, hein, il faut regarder. Franchement, j'essaye de la regarder en long, en large, en travers pour essayer de voir ce qu'on nous demande d'y voir. C'est quand même très difficile. On voit un visage avec quelque chose sur la tête et on voit une personne noire sur cette photo, il n'y a aucun doute. Mmh. La rotative nous dit également que pour le procureur, donc la personne en civil exerce un point de compression suite aux blessures du policier. On sait que Bertrand a été blessé à l'abdomen, hein, Bertrand Bilal. Et on voit que ce civil, effectivement, exerce une pression, si c'est bien la tête qu'on voit sur la photo et non pas autre chose, il exerce un point de compression sur une partie basse du corps. Donc tout ça serait très cohérent. Mmh. Ce serait intéressant de pouvoir retrouver la personne qui a exercé
ce point de compression. Mmh, mmh. Alors face à cette situation, comment réagit le comité qui s'est constitué pour faire toute la lumière sur la mort de Bertrand Bilal?
C'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle, mais l'idée c'était de lancer un appel à témoins. Ah oui, je voulais juste préciser quand même, justement, le parquet antiterroriste, là c'est très important, enfin c'est important, nous fait le coup de la théorie du complot. Hein, sur les interrogations, les insistances de David Perrotin de 89, le parquet répond, ça fait un mois que vous êtes dans votre théorie du complot. Nous n'avons pas de temps à perdre. Voilà, donc là, je pense que c'est grave. C'est un peu compliqué de lutter contre le complotisme quand on est légitime à se poser des questions au vu de toutes ces incohérences avérées.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec la version officielle, on est forcément des complotistes, quoi.
Complotistes, là, ça va devenir grave. Ça va devenir grave parce que le complotisme, on a besoin aussi de lutter contre. Mmh. C'est quelque chose qui nous désarme. Mais là, donc, pour ce qui est du comité de soutien, collectif, comité vérité, justice pour Bertrand Bilal, c'est un comité qui s'est constitué il y a une quinzaine de jours, hein, le week-end du 17 janvier. Au départ, l'idée, c'était d'organiser un rassemblement avec un appel à témoins qui aurait été diffusé au mégaphone en direction de la population sur les lieux même de la mort de Bertrand Bilal, c'est-à-dire devant le commissariat, puisqu'il a été tué au commissariat. Mmh. Et dans l'idée d'essayer d'inciter, il y a un certain nombre de commerces sur cette place, il y a un café, il y a beaucoup de choses, il y a forcément des personnes qui ont vu, voilà, il y a des témoins, et l'idée c'était d'interpeller ces témoins en appelant en fait à leur conscience avec la maman, avec la famille, etc. Ce rassemblement pour appel à témoins, au départ, il était prévu le 10 janvier. Il était prévu le samedi 10 janvier dans la foulée de la conférence de presse. Il avait été évoqué sur la conférence de presse. Je voudrais dire, parce que c'est important, que pratiquement rien n'est sorti de cette conférence de presse. Sauf qu'un rassemblement pour appel à témoins devait avoir lieu le samedi suivant. Évidemment, avec Charlie Hebdo, on n'y a plus pensé une seconde. On a complètement renoncé à cette idée-là. Et on s'est dit qu'il fallait attendre un petit peu. Sauf que la nouvelle est sortie et qu'il y a eu tout de suite une bronca policière, mobilisation, syndicat policier qui a sorti un tract affreux, je suis policier, sur le modèle de je suis Charlie, tout un tas de l'AU, je suis policier à jouer, j'ai tant qu'on me respecte, etc. Ça fait partie aussi des pressions policières très fortes qui ont été exercées, hein, qui menacent une contre-mobilisation en cas de rassemblement, et on se rend compte, alors même que nous ne pensions plus du tout à ce rassemblement et on le prévoyait pour samedi suivant, on se rend compte qu'il y a eu un arrêté préfectoral d'interdiction qui a été pris suite à cette pression policière, et donc ce tract du syndicat Force Ouvrière Police qui se félicite de ce résultat obtenu et qui menace la famille si jamais elle s'obstinait à vouloir faire ce type de rassemblement devant le commissariat. Ce serait une provocation intolérable à laquelle il serait systématiquement répondu de la même façon. Donc, nous, comité vérité justice pour Bertrand Bilal, décidons que on ne peut pas faire ce rassemblement en l'état actuel des choses face à ces menaces. Notre objectif, c'est d'avancer vers la vérité, c'est d'obtenir la nomination d'un juge d'instruction, et c'est pas de pousser la population, enfin, c'est pas de risquer, en fait, d'exposer la population, et en particulier les proches de Bertrand Bilal qui ont déjà été durement affectés par ce qui s'est passé, à un risque de confrontation violente avec la police. C'est pas, bon, ça devient contre-productif. Donc on s'est tout simplement réunis pour fonder déjà pour fonder notre comité, discuter de nos perspectives, de définir un plan d'action. Et dans un premier temps, un tract a été produit qui est un appel à témoins avec les mots de la maman, les mots des amis, et puis un numéro de téléphone et une adresse mail afin que des personnes qui souhaiteraient s'exprimer plus directement auprès des premières personnes concernées puissent le faire. Voilà. Et dans un deuxième temps, on ne perd pas de vue l'idée de pouvoir organiser, par exemple, une marche qui serait non pas forcément un rassemblement devant le commissariat, mais qui pourrait commémorer le dernier trajet qu'a effectué Bertrand Bilal. L'objectif, c'est bien sûr de réhabiliter sa mémoire, puisque toutes celles et ceux qui l'ont connu souffrent beaucoup d'avoir le sentiment qu'il a été sali. L'homme qu'il a été, la vie qu'il a eue et sa mort aussi. Il a été diffamé, les circonstances de sa mort ont été obscurcies. Donc l'idée, c'est de réhabiliter sa mémoire et bien entendu d'obtenir la lumière sur les circonstances réelles de sa mort. Et pour ça, d'obtenir la nomination d'un juge. Donc il s'agit d'essayer d'établir un rapport de force. Pour l'instant, il faut quand même dire qu'on est quand même bien loin du compte, parce que les forces en face, elles sont quand même énormes.
Très difficile, surtout voilà. Que là, il y a presque une union nationale derrière la police, là.
C'est ça. Voilà, on est dans ce contexte-là.
Exactement.
C'est vraiment très, très compliqué. Donc là, on est des petites, des petites fourmis qui essayent au moins de se soutenir les unes les autres, enfin, de ne pas complètement désespérer. Et malgré tout, un noyau de personnes qui ont bien connu Bertrand Bilal, qui sont sûrs de leur fait. Donc ça rend quand même déterminé peut-être à plus long terme. Mais dans un premier temps, on voudrait pouvoir continuer à faire parler de lui, à ce que son affaire ne soit pas oubliée, à ce que tout ça ne soit pas complètement enterré et à ce qu'il ne soit pas confondu avec effectivement un profil qui existe réellement.
Mais qui n'est pas le sien.
Mais qui n'est pas le sien, voilà, tout simplement. Qui n'est pas le sien, il n'était pas cette personne-là. Et tout ça, ça se passe dans une...
Et puis peut-être aussi par rapport à tous les amalgames qui pourraient éventuellement être faits par le futur. Dès qu'un jeune issu de l'immigration, musulman, aurait affaire à la police.
Alors ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave dans cette affaire. Et que les amis de Bertrand Bilal ressentent très très fortement. Dès le lendemain de sa mort, dès le jour de sa mort, ils ont ressenti l'impression que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre eux. Et le sentiment qu'à l'avenir, effectivement, on peut tuer l'un d'entre eux, on trouvera toujours une bonne raison pour le faire, même a posteriori. Et aujourd'hui, il y a quand même, au-delà de ces jeunes, il y a quand même beaucoup de monde dans la communauté, ou les communautés, en tout cas les personnes de religion musulmane, ou les personnes à qui on pourrait attribuer la religion musulmane sur leur faciès, comme ça se fait chez certains. Hein. On a entendu ces mots de la part de tel ou tel politique, l'apparence musulmane, c'est magnifique. Les femmes qui, elles, peuvent être visiblement musulmanes parce qu'elles sont voilées. Mais là, en ce moment, il y a un climat de terreur. Il y a une vraie peur parmi ces personnes de risquer à tout moment d'être accusé, voilà, on peut se faire battre, on peut se faire tuer, et il suffit de prétendre a posteriori, ah bah oui, mais moi j'ai entendu Allahu Akbar, de toute façon, voilà, c'est la dimension la plus, peut-être la plus grave là, dans ce drame, au-delà du fait qu'il y a eu mort d'homme, au-delà du fait que les personnes qui meurent comme ça entre les mains de la police, c'est intolérable, c'est quelque chose de récurrent et d'intolérable, mais là on a atteint, c'est peut-être un cap particulièrement dangereux pour la suite des événements. En tout cas, les choses ne vont pas dans le sens de moins de pouvoir à la police. Aujourd'hui, on nous parle encore d'armement pour les policiers municipaux. Et on sait que plus il y a d'armes dans la police, plus il y a des faits délétères, forcément. Hein. Plus il y a d'armes, plus on s'en sert. Et donc, plus il y a de dégâts, plus il y a de mutilés avec les flashballs, plus il y a de morts. Donc, les choses ne vont vraiment pas dans notre sens. Et il y a de quoi s'inquiéter, là. À l'heure actuelle, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, mais c'est d'autant plus de raisons de rester mobilisés
J'allais le dire. Ouais, j'allais le dire. D'où la nécessité de poursuivre le travail pour les comités vérité justice. D'où l'importance des médias comme les nôtres de continuer à réfléchir, de creuser, d'essayer de dégager un peu des perspectives. Le travail reste à faire et il faut rester mobilisé absolument et pas se laisser emporter par cette vague qui nous submerge.
À la fois sur ces situations particulières. Donc là, le comité Vérité et Justice pour Bertrand Bilal ne désarmera pas, même s'il nous faut plus de temps que prévu pour pouvoir apparaître en pleine lumière et faire davantage parler de nous. En tout cas, il ne désarmera pas. Et puis au-delà, j'entendais le petit son tout à l'heure qui parlait de condamner antisémitisme et islamophobie de la même façon, en fait, avec la même force.
Exactement.
Donc au-delà, effectivement, il y a toute une série de campagnes à mener, de mobilisation à organiser pour crier haut et fort cette chose-là. Il y a effectivement aujourd'hui, on parle souvent d'un nouvel antisémitisme. Et on parle d'un nouvel antisémitisme qui serait le fait d'une certaine population. Alors d'une part, il y a de l'abus à dire cela parce que c'est quand même simplifier la situation. Mais de l'autre, il faut aussi comprendre que si on ne lutte pas de la même façon contre l'islamophobie et contre l'antisémitisme, on prête le flanc à cette fameuse notion de deux poids, deux mesures, qui est durement vécu par ceux qui le subissent à leur détriment. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, ça peut produire, en tout cas, sinon un antisémitisme, du moins le sentiment que tout le monde n'est pas traité à égalité, et donc du ressentiment. Et donc, on produit du ressentiment à ce petit jeu-là. Donc, la lutte contre l'islamophobie et la lutte contre l'antisémitisme, c'est une seule et même chose.
C'est la lutte contre le racisme.
Voilà, exactement. Et c'est ce que ce tueur a répété, l'Union juive française pour la paix, qui, comme on le sait, intervient à la fois, bien entendu, en solidarité avec la résistance palestinienne, mais aussi se positionne sur tout un tas de problématiques comme ça, qui nous concernent, nous, ici, à l'intérieur du territoire français.
Ouais, donc il faut continuer à se battre contre le racisme sous toutes ses formes. Exactement. Bah écoutez, écoute, bon courage.
Freedom now. Give me, give me, give me, give me.
puisqu'on est dans le vif du sujet, je vais vous parler de violences policières et de leurs conséquences au niveau de la justice. Monsieur Gurem, c'est un voyageur qui est âgé de 89 ans. Cette nouvelle m'est venue de des dépêches de Zigane, qui est un ancien résistant rescapé de Caen en France, en Allemagne, qui a écrit un livre qui retrace sa vie. Il apporte d'ailleurs son témoignage dans des collèges, des lycées, des centres d'histoire et de culture de par le monde. Eh bien, ce monsieur a été tabassé par deux flics dans sa caravane et puis à l'extérieur. Ces policiers intervenaient pour une affaire d'ailleurs qui ne le concernait pas directement. Quatre de ses enfants et petits-enfants ont voulu le protéger. Ils ont été arrêtés et condamnés en première instance pour outrage et rébellion. Il y a eu des certificats médicaux. Monsieur Gurem a muni ces deux certificats médicaux. Il a voulu porter plainte. Il a réussi à porter plainte, pas de problème, sauf que le parquet de la cour d'appel du tribunal d'instance d'Evry, dans le 91, lui a, dans un courrier daté du 12 janvier, signifié un avis de classement sans suite de sa plainte. Bien sûr, des recours sont en cours, mais bon, ça me fait penser qu'on ne parle pas assez de la répression que vivent les Ziganes, que vivent les Roms. Ça me fait penser que dans la région de Lille, récemment, c'était début février, je crois, il y a eu une manifestation d'ailleurs à Lille pour défendre justement ces Roms, où ils avaient été, leur camp y a été complètement ravagé, on peut dire, par des policiers de la BAC qui a visiblement été bien éméchés et qui se sont vengés un petit peu de leur vie, de leur triste vie, contre des femmes, entre autres, et des enfants qui étaient dans ce camp. Je pense qu'au niveau des Roms et au niveau des Tziganes en général, ils vivent une répression qui n'est pas sans rappeler des périodes dont on nous parle très souvent actuellement, des périodes noires de notre histoire. Mais quand on parle des périodes noires de notre histoire, on ne parle pas, justement, pas assez de la répression qu'ont pu subir ces populations. Alors une autre, là cette fois-ci, c'est une autre violence policière. Cette fois-ci, c'est une mise en examen qui est annulée. On en avait parlé ici, on avait fait même une émission là-dessus. Ça se passait dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2011. Ça se passait, je crois, à Clermont-Ferrand. Vissam est mort 9 jours après avoir tombé dans le coma le soir de son arrestation. Sa famille et ses amis ont toujours estimé qu'il avait été victime de violence. En effet, des photographies du corps de Vissam avaient clairement montré un serrage au niveau du cou. Il y avait eu un rapport de l'IGPN qui avait révélé l'emploi sur la victime lors de son transport au commissariat de la technique du pliage qui consiste à maintenir la tête appuyée sur les genoux. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique, les deux flics qui l'avaient transporté ont été mis en examen en mars 2014. Mais la chambre d'instruction de la cour d'appel de Riom, dans le pays de Puy-de-Rion, du Puy-de-Dôme, a annulé le 20 janvier la mise en examen d'un de ces deux policiers. Il l'avait transporté. Voilà. Le tribunal considère qu'il n'y a pas d'indice sérieux prouvant que le travail de ce policier soit en lien direct avec le décès de Vissam. À suivre, à signaler que là, mes sources, c'est le journal Libération. On est dans une période où on a intérêt à donner ses sources, surtout quand on parle de violences policières. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en Europe, puisque malheureusement, la répression ne touche pas que la France. En Angleterre, il y a une stratégie anti-manif de la police britannique qui est pas mal. Là, la source, c'est le quotidien Le Guardian. Il affirme, ce quotidien, que la police britannique procède à des arrestations et mises en liberté sous caution, sans charge retenue, contre des personnes ayant seulement l'intention de participer à des manifestations, qu'elles soient autorisées ou pas d'ailleurs. La police mène ainsi sa propre justice sans aller devant aucun tribunal. C'est ainsi que depuis 2008, au moins 732 personnes ont été arrêtées en Angleterre et au Pays de Galles, sans jamais avoir été poursuivies ensuite, alors que ces dernières se rendaient à des manifestations autorisées. Il n'y a aucune limite dans le temps. Lorsqu'une personne est soumise à une caution, sans charge, et un flic d'ailleurs, n'a pas besoin de la permission d'un tribunal pour remettre une interdiction de manifester. Si cette interdiction est bafouée, le manifestant est passible d'arrestation pour violation de liberté sous caution. C'est ainsi que 85% des personnes interdites de manifester, de la sorte, n'ont pas été par la suite mises en accusation. Cette stratégie policière permet donc non seulement d'empêcher quelqu'un de rejoindre une manifestation, mais aussi de lui passer l'envie de retenter un autre jour. Cet aspect de la société policière britannique est actuellement contesté par le réseau pour la surveillance de la police. Je ne vous donne pas le terme en anglais, mais n'empêche qu'on en parle beaucoup. Mes sources, eh bien, c'est le Nouvel Obs d'ailleurs. On vous parle un peu maintenant de l'Espagne. Ah, l'Espagne, c'est pas triste. Je crois que vous avez entendu parler. En décembre, la loi organique de sécurité citoyenne, dite loi Bayon, a été votée par le Parlement espagnol, ou le Partido Popular, à la majorité absolue. Alors, cette loi n'est pas définitive, hein. Je tiens à vous dire tout de suite, elle n'est pas définitive parce que le Sénat n'a pas encore voté les dispositions que je vais vous lire. Cette loi limite fortement les droits et les libertés des Espagnols, manifestations, occupations, réunions, expressions, afin de mieux garantir la sécurité. On peut se demander la sécurité de qui ? 45 délits sont concernés où les peines sont encore durcies. Alors, cette peine punit plus sévèrement tous les délits liés à la prostitution, la drogue, mais aussi aux occupations illégales d'un logement, les squats. Elle a aussi pour principale cible le manifestant. Mais cette loi est surtout caractérisée par le fait qu'elle transforme en acte administratif des actes laissés autrefois à l'appréciation des juges. Lorsqu'elle sera définitivement adoptée, on espère que non, pour les 45 délits concernés, plus besoin de passer devant un juge, plus besoin d'avocat, puisque ce sera l'administration, donc les flics, les fonctionnaires, qui donnera le tarif. Les amendes sont classées en trois catégories, légères, graves et très graves, pouvant monter jusqu'à 600 000 euros. Les amendes légères sont fixées entre 100 et 600 euros. Un exemple, le fait de refuser de décliner son identité dans un contrôle de la police, ça vous coûte 600 euros. Les fautes dites graves peuvent aller jusqu'à 30 000 euros, comme par exemple manifester devant les bâtiments publics ou encore filmer la police et en diffuser les images. Ok ? Alors bon, si on parle de manifester devant les bâtiments publics, ça nous rappelle tout ce qui s'est passé en Espagne en 2013 concernant justement le mouvement des indignés. Ensuite, les fautes dites très graves, qui visent surtout l'occupation, cette fois-ci c'est l'occupation de bâtiments publics, de banques, tiens, la participation à une manif interdite, eh bien les amendes pourront aller jusqu'à 600 000 euros. La deuxième cible de cette loi est le migrant. En effet, tout individu qui sera pris en train de passer les frontières des enclaves marocaines de Ceuta et Melilla sera renvoyé à chaud illico presto de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire que là, eh bien, quand on a vu d'ailleurs des images où il y avait des migrants qui passaient, qui réussissaient à passer cette fameuse muraille de barbelés, pour passer du côté espagnol, eh bien l'Espagne pourra les reprendre et les renvoyer directement au Maroc.
Ce qu'elle fait déjà, d'ailleurs.
Ce qu'elle fait déjà, tout à fait. Pour couronner le tout, on ne pourra constater son amende qu'après l'avoir payée. Imaginez-vous un Espagnol qui paye 600 000 euros d'amende pour avoir participé à une manifestation interdite, en s'adressant à la juridiction contentieux administratif. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui se passe en Espagne aujourd'hui. Cette loi n'est pas définitive, hein, puisque il y a des manifestations qui ont lieu. Il y a eu des manifestations en décembre surtout, en janvier. Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais bon, peut-être qu'on aura des informations très bientôt. Pour maintenant couronner le tout, on va parler cette fois-ci de l'Union européenne, la forteresse Europe. L'Union européenne vient de publier son bilan de l'opération Mos Meriem, gigantesque opération de rafle à travers l'Europe, qui a été menée du 13 au 26 octobre par 27 pays européens. On en avait parlé à cette antenne, hein, d'ailleurs, sur le, je crois, ce que je vais vous lire là, vous, c'est tiré du site Sans Papiers ni Frontières, mais vous avez aussi, dans Reims Média Libre, la même chose qui a été publiée, et c'est très bien.
Et sur le blog du Chanois.
Et sur le blog du Chanois, excuse-moi. Bon, alors, au total, donc, dans cette opération qui a duré plus qu'une semaine, hein, ça a duré pratiquement 13 jours, 19 234 personnes ont été arrêtées, contrôlées et interrogées lors de cette opération, dont l'objectif était de collecter diverses informations sur les migrants et les migrantes et les nouvelles routes de l'immigration, en vue évidemment de renforcer les politiques contre l'immigration. 257 personnes considérées comme passeurs ont également été arrêtées. Plus de 6000 contrôles ont eu lieu lors de ces deux semaines, dont plus de 1500 aux frontières extérieures de l'Europe. Les meilleurs élèves de la guerre contre l'immigration sont l'Italie, avec 6000 personnes contrôlées, suivi de l'Allemagne, 3007, la Hongrie, 3000, l'Autriche, 1200, la Grande-Bretagne, 1000, et la France, 958. On ne peut que constater que le nombre de personnes contrôlées double quasiment chaque année, parce que cette opération-là a lieu tous les ans. En 2013, eh bien, il n'y en avait eu que 10 000. L'opération s'appelait Percunas. Et en 2012, c'était d'ailleurs, je crois, la première, l'opération s'appelait Aphrodite. Il n'y en a eu que 5 300. On s'aperçoit que d'année en année, ça double. On passe de 5 000 à 10 000 et cette année 2014 à 20 000.
Alors, pour dire que le nombre de pays varie d'une année sur l'autre, hein, concerné.
Alors, une grande partie des personnes arrêtées est originaire de pays en guerre, évidemment, où les puissances occidentales ont foutu la merde ces dernières années au nom de la démocratie et des élections libres, hein, Syrie, Afghanistan, Irak, Érythrée, Somalie. En France, beaucoup de contrôles ont eu lieu à la gare du Nord, à Paris, au départ des trains pour Calais, zone frontalière avec l'Angleterre, où beaucoup de migrants se rendent dans l'espoir de passer la Manche ou la mer du Nord. À noter tout de même qu'il y a eu des résistances, puisqu'il y a eu plusieurs initiatives à travers l'Europe qui ont tenté d'informer sur cette opération et parfois l'empêcher sur le terrain. Cette opération prend un caractère exceptionnel par l'ampleur du dispositif, 2 semaines chaque année, mais il faut se rappeler quand même que les rafles sont quotidiennes à travers l'Europe. Tout doit être tenté afin de fissurer cette Europe forteresse.
Alors, on vous rappelle que le but de cette, au départ, le but affiché de cette opération, c'est de trouver des passeurs. Et donc,
c'est minable, hein, 257.
Sur 13 000,
sur 20 000.
20 000 interpellations, c'est quand même plus que minable.
Plus que minable.
Et en plus, pour voir ce qu'ils appellent passeurs.
Tout à fait.
Voilà.
Voilà. La plupart du temps, d'ailleurs, les passeurs en question sont des gens qui fuient aussi le pays en question. Bon, alors on va peut-être faire une pause musicale avant de passer à autre chose.
Quand on a décidé de rester, décidé d'occuper, qu'après bientôt 2 mois, on serait encore là. Est-ce que tu aurais cru qu'on se serait battu? Est-ce que tu aurais cru qu'on se serait connu, qu'on se serait parlé, qu'on se serait tenu, qu'on se serait aidé, qu'on se serait dit tu? Est-ce que tu l'aurais cru? Il faut l'avoir vécu. Est-ce que tu as cru ou seulement espéré voir nos enfants jouer, nos enfants s'amuser sur leurs belles moquettes, leurs fauteuils à roulettes? Est-ce que tu aurais cru ça mérite d'être vu? Bien sûr, je sais, c'est dur, on dort peu et ça dure. Bien sûr, les lendemains sont encore incertains, mais on revient quand même, personne n'est forcé. Est-ce que tu as cru, on lutte en liberté? Est-ce que tu aurais cru qu'on pouvait préférer venir se réunir, venir se retrouver? Ce qui est arrivé ne peut plus s'oublier. Est-ce que tu aurais cru, et ce n'est qu'un début? Ce qui est arrivé est déjà formidable. Est-ce que tu aurais cru qu'on en était capable? Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début.
Oui. Alors, on va vous parler maintenant de la prévention de la délinquance. Alors, pour ceux qui suivent les émissions de l'Égrégore depuis très très longtemps, eh bien, on en avait parlé longuement en 2007, vu qu'il y avait la loi dite Sarkozy relative à la prévention de la délinquance. Alors, il y avait eu même des manifestations, entre autres à Vitry-le-François. Un de ces actes centraux, hormis l'informatisation du fichage, était le partage d'informations entre les professionnels d'action sociale et les maires, ou ses coordinateurs, au sein de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Cette loi fut contestée car elle mettait à mal le respect du droit du secret professionnel. Cette loi fut un échec à tel point qu'en octobre 2009, le Fillon, premier ministre de Sarkozy, déclarait, je cite, nous avons donc décidé de mieux définir la notion de secret professionnel partagé et de travailler à ce qu'elle soit acceptée à la fois par les travailleurs sociaux, par les enseignants et par les forces de l'ordre. Mais pour que cette circulation du secret professionnel soit possible, il faut absolument que règne entre ces acteurs la confiance. Et donc, pour organiser collectivement la prévention de la délinquance autour du maire, nous avons décidé que serait mise en place une charge déontologique en liaison avec le Conseil supérieur du travail social. C'est ce que disait Fillon en 2009 et on comprend que la loi Sarkozy de 2007, c'était vraiment un échec. Cette charte fut donc élaborée, c'était pénible, en 2010. Mais ne faisant pas force de loi et ne réglant rien sur le fond, elle n'a quasiment eu aucun impact dans les pratiques des professionnels d'action sociale. Le pouvoir politique a changé, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, en 2012. Et la stratégie nationale 2013-2017 de prévention de la délinquance a de nouveau fait du partage d'informations un de ses axes forts en visant tout particulièrement les professionnels de la prévention spécialisée. C'était donc le changement dans la continuité. La saison 2 pouvait donc commencer. Alors, mi-2014, c'est-à-dire il n'y a pas tout à fait un an, trois documents ont été publiés. Une nouvelle charte déontologique pour l'échange d'informations dans le cadre des fameux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Un guide méthodologique sur l'échange d'informations et aussi un guide pratique sur la participation des équipes de prévention spécialisées à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance. À noter que on n'a pas entendu parler. Ceux qui contestaient en 2007, 2008, 2009 se sont tus. Le site, par exemple, Anti-Délation, qui a eu un succès assez fou en 2007, 2008, 2009, eh bien, n'en a absolument pas parlé non plus. À ces trois documents, donc, s'ajoute une délibération de la CNIL, qui dit CNIL dit fichage, donnant autorisation au traitement de données relatifs aux personnes faisant l'objet d'un suivi par le maire dans le cadre de ses missions de prévention de la délinquance. Seront ainsi collectées dans ce fichier l'identité des intéressés, leur niveau scolaire, les origines du suivi, les mesures proposées, les infractions, condamnations et mesures de sûreté si elles sont nécessaires à la mise en œuvre du suivi et de l'accompagnement de la personne concernée. En fait, ce fichier fait penser à une sorte de STIC, système de traitement des infractions municipales, avec très certainement toute une flopée d'erreurs de transcription inhérentes à ce type de fichier. Ces données seront collectées jusqu'aux 25 ans de l'intéressé et pas plus de 3 ans après le dernier suivi. L'accès à ces informations est ouvert à tous les acteurs de la prévention de la délinquance au sens large du terme. Et là, vous allez rire, à l'exception des policiers et gendarmes, mais ces derniers pourront toutefois y accéder avec l'étiquette « police judiciaire ». La CNIL a rappelé la nécessaire information préalable des personnes concernées par ce fichage nominatif, mais s'est assise sur l'avis du Conseil supérieur du travail social qui demandait le consentement express des intéressés. Alors, d'où je sors ça? Eh bien, ma source, c'est tout simplement le journal du droit des jeunes, numéro 238 et 239. D'ailleurs, c'est un article qui a été repris par la lettre d'information de Laurent Mucelli. Vous pouvez trouver ça sans problème sur Internet. L'article en question est de Dadouche. Voilà. Mais je crois que là-dessus, c'est complètement passé inaperçu. C'est là qu'on s'aperçoit que même dans une période très courte, 2007-2015, c'est quand même court, 8 ans, il y a eu un sacré recul au niveau eh bien, de mobilisation, etc. Puisque, je vous rappelle, en 2007, il y avait eu, contre Sarkozy, toute une levée de boucliers. Alors, que vous dire encore?
Rapide.
Rapide, oui, parce que... Alors, il y a la police, là, qui s'est invitée à l'entretien préalable d'un licenciement. C'était pas prévu au code du travail, mais ça a eu lieu. C'était un travailleur sans papier qui avait un nom d'emprunt, comme nombre de personnes sans papier, pour une entreprise de nettoyage du classique, dont le siège social est dans le 92. Donc il travaillait à temps partiel, il avait un CDI, et puis au bout d'un certain temps, il a voulu se faire régulariser, il a voulu régulariser sa situation. L'employeur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pour pas lui payer ses 6 mois de travail, eh bien, il l'a licencié. Et à son entretien préalable, la personne s'est présentée, elle est accompagnée de son syndicat, et il y avait en face les flics qui l'ont pris et l'ont emmené au centre de rétention. Il y a eu une mobilisation importante, syndicale et associative, et finalement, Saliou, il s'appelle Saliou, a été libéré au bout de 4 jours de rétention. Voilà.
Actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
C'était donc Louis Grégoire, une parole anarchiste communiste, chaque semaine sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site OC Libertaire. Et aussi, apparemment, sur le site Reims.